Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 6 février. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok. Et aujourd'hui, on va parler du Cameroun. Du Cameroun, parce que tout le monde le sait déjà, hein, un journaliste est mort ici. Disons plutôt un animateur, pas télé, radio. La radio, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Amplitude FM. Et son émission, c'était Embouteillage. Bon, ça, c'est tous les slogans, hein, ça, c'est très bien. L'effet tam-tam de la radio. Donc, ce journaliste s'appelait Zogo Martinez. Un nom très, comment on va dire, représentatif de l'ethnie au pouvoir. Et c'est l'histoire donc de ce journaliste dont on va parler contre un autre membre toujours de son ethnie, qui lui est un grand homme d'affaires, comment on va dire, un Murdoch des médias, qui s'appelle M. Amougou Belinga. Donc c'est la presse contre un grand patron, hein, dont le succès dérange. Parce qu'en Afrique, surtout, enfin en Afrique au Cameroun, on n'aime pas le succès, on n'aime pas le succès. Dès qu'il y a le succès quelque part, on soupçonne des malversations. C'est vrai que très fréquemment c'est le cas, mais il faut distinguer quand même des choses. Parce que pour comprendre déjà ce qui se passe dans cette affaire, où on soupçonne donc ce grand patron de la presse à Mougou, enfin des médias, pas de la presse seulement, et des médias. Enfin, il a un grand groupe, hein, c'est pas seulement les médias, c'est un groupe intégré qui a une microfinance, qui a donc le groupe de presse qui s'appelle Anecdote, qui a une grande télévision et qui a beaucoup d'autres choses, et surtout qui a une vision panafricaine et on va dire France-Afrique. La France est là, et France-Africaine. Bon, France-Africaine dans le bon sens, hein, parce qu'il a racheté Télésud. Et donc, c'est quand même un gros poisson contre un petit poisson. Alors, le petit poisson, il a voulu manger le gros poisson, et c'est pas passé. C'est pas le moment de faire ce genre de blague, parce que le journaliste est vraiment mort, et puis d'après les enquêteurs, il aurait été torturé, et vraiment sauvagement torturé, et c'est pas drôle, voilà, en fait. Mais en même temps, derrière cette histoire, bon, pour le moment, on est dans les, comment on va dire, les supputations, mais il y a quand même, ça s'est enflammé, hein, parce que là, ça se calme un peu, ça s'est enflammé. L'état du Cameroun, c'est que derrière tout cela, ce journaliste, il devient pas seulement représentant de la presse, qui d'ailleurs elle-même est achetée, mais pas seulement par le pouvoir en place, bien sûr, mais par le système mondial, global, qui gère les médias. Mais aussi, ce journaliste représente le mal-être des populations qui sont très remontées contre l'État camerounais. Et donc, pour comprendre, il faut partir de là. L'État du Cameroun est un État à la fois politique et social très, je ne vais pas dire dégradé, mais c'est un peu ça. Donc, l'État est critiqué pour sa sourde oreille, aux doléances des populations, à la souffrance du peuple qui crie. Et qui crie d'abord contre les inégalités terribles. Ces inégalités sont carrément foudroyantes, moi je vais utiliser le mot, parce qu'il y a un enrichissement insolent et illicite qui ne dit pas son nom, et soudain surtout, il y a une déliquescence du service public, parce qu'il faut tout acheter, tout se monnaie, mais ce n'est pas toujours la faute des fonctionnaires, qui aussi sont mal payés par rapport au coût de la vie, donc c'est la survie pour tous. Puis il y a les concours dans les grandes écoles qui aujourd'hui sont réservés à une sorte de nomenclatura, voilà, c'est l'occasion de parler de cela. Et il y a les, comment on va dire, les nominations sectaires et ou claniques, et à cela s'ajoute tout ce qui est... on parle aujourd'hui de présence des sectes mystiques, franc-maçonnerie, je sais pas, pédophilie, homosexualité, tout ça. Bon. Alors, il y a un déficit infrastructurel et structurel qui font que la qualité de la vie est médiocre et la qualité de l'environnement l'est tout autant. Alors, l'État, tout cela, c'est ce dont ce journaliste, donc ça fait corps, vous voyez, c'est ce dont ce journaliste Martinez Zogo parlait tout le temps. Et c'est vrai que lorsque vous avez déjà un électorat ou je sais pas comment on appelle ceux qui écoutent un audimat ou très remonté comme cela, il y a un peu une sorte de transfert. Vous voyez, Martinez, c'était la voix des sans-voix, comme dirait Monsieur Aimé Césaire et d'autres poètes avant lui. Dans le citoyen, écroule sous un loyer très cher, le chômage exorbitant des jeunes, celui des jeunes diplômés et même des moins jeunes, l'absence de protection sociale et médicale, les subventions sont réservées aux experts et aux amis et entre-temps et aux enfants bien sûr. Entre-temps, quand on dit experts, hein, c'est à ceux qui ont le code secret qui leur permet d'accéder aux lignes budgétaires dont on parle, 94, 60, 74, 70, je vous dis ça comme ça, il y a trois lignes budgétaires qui sont devenues représentatives de la mafia des subventions. Et ceux qui connaissent comment on y accède, y vont, les subventions publiques, et ont obtiennent des subventions pour un oui ou pour un non. Alors, le citoyen est remonté, et Monsieur Zogo, il surfait sur cette vague populiste, carrément. Parce que je l'appelle populiste, je ne l'appelle pas populaire. Pour des raisons qui vont suivre. Populaire, c'est quelque chose qui est à la fois incontestable et populiste. C'est vrai que parfois c'est vrai, mais parfois c'est aussi un peu tiré par les cheveux parce que c'est ce que le, je sais pas, le consommateur des médias veut entendre. C'est ce qu'il veut entendre et donc on lui donne un peu cela comme ça, on lui jette les gens en pâture sans vraiment vérifier que ce qui est dit est vrai, enfin vrai, est incontestable, mais surtout il ne faudrait pas que les journalistes prennent la place de la justice. Donc il y a une ligne qui est difficile à franchir. Bon, peu importe alors, le citoyen est fâché et il y a quelqu'un qui vient lui mettre du baume au cœur en parlant de ces choses-là. Donc il s'est dit, bah, enfin, c'est pas moi seul qui vis cela. Un secteur agricole moribond, prolétarisé, sans sous-équipé. On plante encore ici l'agriculture, c'est comme au temps des grands-parents ou des aïeux, sans subvention, pas de mécanisation. Impossible. Voilà, c'est très cher, les tracteurs et tout le reste. Et ce n'est pas disponible gratuitement. Il faut acheter, c'est l'État, à tous ces tracteurs et tout ce matériel. Dans une grande société, dans une grande institution, ce matériel est parqué là-bas, mais vous ne pouvez pas parce que le coût d'accès est absolument, comment je vais dire, il vous décourage. Il y a un mot, je trouve plus. Donc, il y a ça, il y a l'énergie, aujourd'hui, en ce moment, c'est depuis un certain temps. Délestage sur délestage, il semblerait que la fourniture d'électricité ne suffise pas. On se demande comment les Occidentaux ont fait pour stabiliser tout cela. La fourniture d'eau, l'eau est une denrée rare. Ah, c'est carrément un état comateux là-bas. Les salaires sont faibles, les concours sont trafiqués, réservés aux héritiers. La civilité est débradée. Et quand on regarde tout cela, on s'est dit non, 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 c'est pas possible. L'État camerounais, ça va pas du tout. Et le journaliste qui fait bien d'en parler, il faut qu'il enfonce le clou. C'est pour cela qu'il parle d'embouteillage. Et en face, on a aussi cet effet de moquerie, comme ça, un soufflet à la face du citoyen qui voit ses quartiers chics qui débordent, ses immeubles qui n'arrêtent pas de pousser comme des champignons. Il semblerait que ce soit les Nigérians. Ah! qui viennent construire en ce moment tous ces immeubles chics. Il y a en ce moment une grande spéculation immobilière au Cameroun. Hein. On voit cela, on voit qu'il y a un plan d'urbanisme pour ces beaux quartiers, mais pour les autres, c'est un peu les uns sur les autres. On voit qu'il n'y a pas de régime social, mais ça j'ai dit. On voit qu'il y a un décalage qui est absolument terrifiant. Et que, bon, c'est vrai, l'État essaie de faire des choses au niveau macroéconomique, des infrastructures qui vont relier, par exemple, le Cameroun au Nigeria. Bon, ça, ils font des choses comme ça, des très, très gros projets, sans visibilité. Le citoyen ne comprend pas trop parce que les retombées à son niveau, on ne les voit pas. On a parlé de beaucoup de barrages qui étaient en vue, mais finalement, il y a toujours pénurie d'électricité. Et les petits projets traînent un peu, et ça alimente le mécontentement envers l'État. Et quand celui qui en parle est tué, bon, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour dire quand même que Monsieur Amougou Belinga, alors on rentre dans le vif du sujet, c'est un homme d'affaires. Il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Hein. Par exemple, qu'il aurait bénéficié des subventions pour tout et rien, c'est-à-dire y compris en livrant des sous-vêtements et des chaussures de militaires. Bon, on est ici au Cameroun, hein, la ligne 94, la fameuse ligne de subvention, ou qui est un fourre-tout apparemment, où les marchés publics sont réservés ainsi. C'est un peu, comment on va dire, Monsieur Belinga, c'est quelqu'un qui arrive, bon, on va pas dire de nulle part, mais du jour au lendemain, il est là. Il est clair qu'il a dû passer par plusieurs manœuvres pour arriver là. Mais comme pour tous les hommes d'affaires, si on va chercher l'origine des fonds publics, enfin des financements, ça va être assez compliqué. Donc il y a un système D aussi qui lui a aussi été imposé. Et il faut pas non plus que quand les gens critiquent. Ce genre de personnalité, il mélange tout. Il mélange d'abord le fait que quelqu'un comme lui, il emploie énormément de personnes, contrairement à ses ministres qui ont volé, détourné des fonds publics énormes, qui sont en prison et qui n'ont employé presque personne, sinon leur propre village. Voyez? Donc il y a une première différence comme ça qu'il faut faire. Il y a une seconde différence qu'il faut faire au niveau de l'innovation et la dynamique qu'apporte Monsieur Amougou Belinga dans le paysage national, c'est que sa télévision, c'est pas au niveau du service public, il n'y a pas mieux, service privé, pardon, et même public, il n'y a pas mieux. Vous voyez, c'est tout de suite professionnel, c'est une vision, et il a une école aussi, des médias, vous voyez, une démarche intégrée où il forme lui-même ses futurs employés, une école de la communication, l'information, mais aussi des arts et de l'informatique et des télécommunications. Donc il y a cette vision-là qui fait qu'après il y a la télé, il y a les groupes presse, il y a une radio, et puis il y a la microfinance. Certainement que les microfinances, ça sert aussi par l'épargne, le biais de l'épargne. Vous voyez, tout n'est pas facile aussi pour ces gens-là, par le biais de l'épargne, à financer ces projets. Donc, on préfère quand même quelqu'un comme M. Amougou Belinga, il ne faut pas déconner, au vol permanent, non seulement des multinationales qui arrivent ici et qui volent tout, et au vol des membres du gouvernement qui, eux, font de l'accumulation stérile qui n'apporte pas grand-chose au pays, sinon leur propre frime. Alors, quand on vient critiquer M. Amougou Belinga qui a fait ceci, et récemment il a dévoilé un immeuble, alors très très beau, qu'on appelle immeuble Ekang. Cet immeuble trône au centre de la ville, et vraiment, je vais dire, moi j'ai pensé à Citizen Kane. Voilà, Citizen Kane, il faut bien un immeuble. Après, on vous dit non, mais c'est pas seulement c'est pas Citizen Kane, parce que Citizen Kane, pour dire en anglais, est un citoyen qui a une moralité et comment on va dire et une déontologie. Alors, Citizen Kane contre ou Robert Murdoch, c'est les deux à la fois. Parce que ce serait un peu Amogo Bellingha ici, ce serait un peu le patron de Vision 4, non, la télévision. Ce serait un peu le Murdoch moderne, des temps modernes, le Murdoch camerounais des temps modernes, qui est un homme d'affaires, d'abord, un bâtisseur. Et dans ces lois, c'est pas vraiment la morale, c'est tout ce qui est de l'ordre de la pragmatique, parce que c'est l'univers des affaires qui le veut ainsi. Si on veut critiquer M. Amougou Belinga, déjà, il faut pas le considérer comme étant un homme politique, même s'il a bénéficié des faveurs du gouvernement actuel, mais tous les hommes d'affaires, tous les gourous, j'allais dire, de la finance économique, industrielle, ont bénéficié justement de l'action et de l'aide et des subventions de l'État. C'est comme ça dans le monde entier et ça ne peut pas être autrement. Alors on lui oppose le fait que il paye pas ses impôts, il doit ceci, il doit cela. Mais c'est pareil, c'est parce qu'ici, on n'a pas une culture de l'international. Qu'ils se renseignent à l'étranger, tous ces gens-là. On parle de paradis fiscaux parce qu'il y a une évasion fiscale. Justement, ces gens-là, ils ne veulent pas payer d'impôts. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas payer d'impôts, mais ils disent qu'ils ont trop de charges et que s'ils payaient tous ces impôts-là, ils ne seraient pas compétitifs, pardon. Je parlais de compétitivité, de compétitif. Et donc, si soit ils licencient en masse, soit il ne faudra pas payer les impôts, c'est évident. Alors, il y a le ministre des Finances qui a essayé de baisser ses impôts. On a critiquer la démarche, oui, mais c'est parce que c'était son frère, etc. C'est que le Cameroun fonctionne un peu dans un système, je vais dire, en vase clos, en autarcie, comme si le monde n'existait pas, comme s'il n'y avait pas ces choses-là ailleurs. Et donc, ils finissent par tenir des débats stériles qui ne mènent nulle part, en fait, qui mènent nulle part. Et Monsieur Amougou Belinga, dans cette histoire, déjà, c'est-à-dire que ce journaliste, Zogo Martinez, alors maintenant on revient à des choses sérieuses, Monsieur Zogo Martinez, le journaliste, c'était trop facile de s'attaquer à Monsieur Amougou Belinga, c'était trop facile, c'est une cible trop facile, mais c'est pourquoi? C'est qu'il y a un problème dans le marché des médias au Cameroun, c'est un marché saturé parce que autant de radios privées que possible et l'assiette des subventions ne suffit pas. Donc il y a quelque chose comme une sorte de colère de ces petites radios envers donc en gros comme Monsieur Amougou Belinga qui mangerait leurs subventions et puis eux ils n'auraient pas grand-chose pour pouvoir se nourrir. Mais bon, il faut être cohérent. Soit vous voulez un petit quelque chose pour vous nourrir, soit vous voulez critiquer les grands. Mais en même temps, ça peut pas donner. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez faim que vous devez détruire le plus grand en face non plus, en fait, parce que ce plus grand, il nourrit aussi autant de gens que vous. C'est un peu compliqué. Donc, à vrai, c'est vrai, il dit des choses, la liberté d'expression, mais jusqu'où il faut être responsable, responsable et connaître comment le monde marche et savoir que dans le monde entier, aux États-Unis, en France, partout, il y a des référents, hein, on dit en Amérique, too big, too fail. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont tellement grandes comme Air France, bon, on ne peut pas fermer Air France, c'est pas possible parce que c'est tout un écosystème qui s'écroule. Et un déséquilibre incroyable pour l'économie du monde, enfin du monde du pays, et j'allais même dire là, je ne veux pas dire du monde, mais du monde de l'aviation, de l'aéronautique ou de l'aviation, je veux dire, les Africains ne comprennent pas les enjeux fondamentaux et que lorsque on vient critiquer, c'est pas qu'on va faire des vaches, on va en faire des vaches sacrées, non. Mais quand même, Monsieur Amougou Belinga, franchement, il détonne dans le paysage politique, social, financier, économique, par sa façon et son approche. Et c'est vrai que des gens comme ça, au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il faut quand même, quand on voit, comme on dit, le verre à moitié plein ou à moitié rempli, quand on fait le ratio entre les bons côtés de ce qu'il fait et les moins bons côtés, le positif, il déborde. Donc, restons positifs. Et c'est trop facile de s'attaquer à monsieur là, vraiment. Et c'est un modèle de réussite pour le Cameroun. Et s'il y a quelqu'un qu'on devrait pas, peut-être pas épargnés. On devrait en parler de façon plus respectueuse quand même, parce qu'on ne bâtit pas comme ça ici au Cameroun. Je vous assure, c'est très compliqué. Le marché des médias, enfin le marché de l'argent au Cameroun n'existe pratiquement pas. Il n'y a pas de crédit, les lignes de crédit dans les banques. Le marché publicitaire censé nourrir les médias est moribond, et de toute façon, nulle part au monde, les médias n'ont été, ne sont, comment on va dire, comment dire, rentables. C'est une activité qui n'est pas rentable. Et alors, une fois, on va arriver au Tour de France. Quand même, il y a des années, un coureur, un grimpeur, Monsieur Virenque. Alors, Virenque, on lui avait reproché, on l'avait pris, il a été pris dans une tourmente pour faire, pour donner un exemple. Donc, il a été, comment je vais dire, il fallait donner un sacrifice, parce qu'on soupçonnait le Tour de France d'être plein de gens dopés. Et c'était Virenque. Et oh, il est dopé, oh, il était pris dans une tourmente. Et M. Bernard Tapie avait dit, mais pensez pas que le dopage, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut déjà avoir du talent pour que le dopage vous apporte un plus. On va pas doper un mouton, quoi. Je veux dire, si vous ne pouvez pas, le dopage donnera rien. Donc il faut déjà qu'il y ait quelque chose, un substrat, voilà. Et donc, Monsieur Amougou, on peut tout dire, il a ce quelque chose-là qui fait qu'après, bon, il y a un peu de dopage, mais c'est partout pareil. Et puis, de toute façon, le monde de la finance, il marche comme cela. On peut pas trop faire autrement. Et il faut seulement faire attention quand même. On est en Afrique ici, dans un redéploiement de ce qu'on va appeler une nouvelle indépendance, un nouveau départ. Et si on se met maintenant à casser tout ce qui va émerger, mais on est mal barré. Et enfin, on n'ira même plus nulle part, puisqu'on a déjà calé. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'on soupçonne tout ce qui est hommes d'affaires bamiléké, qui ont été éteints de façon par la visibilité. Hein. Je ne connais pas la force financière des uns et des autres, parce que jusqu'à présent, ce sont ces gens bamiléké, ces hommes d'affaires bamiléké qui ont beaucoup d'argent. Et il semblerait qu'il y aurait aussi, là aussi, un combo. Vous voyez, c'est toujours la finance, le jeu de la finance, économique, hein, industriel, où en Afrique, c'est ethnicisé. Hein. Ça, Monsieur Lugan l'avait dit, il avait dit vrai. C'est ethnique. Tout est ethnique ici, les combats aussi, politiques, sociaux, économiques, financiers. Les Bamiléké, ils ont à peu près tout, la banque, tout le commerce, l'économie, ils tiennent tout, sauf la politique, encore que. Les Boulous dont on parle, ils sont au gouvernement, enfin les Bétis, ils sont au gouvernement, le groupe Ekan, donc d'où le nom de l'immeuble Ekan, ils sont au gouvernement, mais en même temps, ce n'est pas des gens qui ont une visibilité, une surface économique et financière importante. Pourtant, ils sont réellement riches, mais sociologiquement, cela n'a pas de visibilité. Et il semblerait donc qu'il y aurait comme ça un conflit. Hein? Invisible entre une guerre, pas un conflit, entre les Bamiléké et les Ékans, du coup, et les Bamiléké qui veulent pas voir les Ékans émerger, enfin, ils veulent pas être écrasés par quelqu'un d'autre. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un complot, ce sont peut-être eux qui auraient pu être la main, qui armaient la main de Zogo Martinez, qui est un Ékan. Vous voyez, c'est compliqué, hein, pour détruire son frère, mais ça, l'Afrique sait faire, vous voyez. Et donc, la charge portée comme ça contre Monsieur Amougou Belinga était quand même énorme, compte tenu du fait qu'il n'est pas le seul. S'il faut alors charger du coup ces hommes d'affaires dont on ne connaît pas aussi l'origine de la richesse, qui est justement calée sur la coopération avec les membres du gouvernement et les subventions justement et les aides de l'État. Donc on a deux précédents. Il y a eu Monsieur Tebela. Il y a un monsieur qui était aussi Ekan, qui a inauguré les supermarchés ici, Moi, je n'étais pas encore venu en France, hein, pour vous dire. J'étais encore jeune, c'était les années. Je travaillais déjà 81, 82, les années 80, disons. Tebela ramenait une grande surface. Heureusement, il appelait l'immeuble Tebela. Et c'était révolutionnaire parce qu'il y avait un super marché, super sur trois niveaux, comme en France, vous voyez, le niveau alimentaire, le niveau vêtements, le niveau. Ameublement, c'était du grand chic. Et c'est là que les gens ont vu pour la première fois des escalators. Hein. C'était très, très, très huppé, très fréquenté. Et autour, sous cet immeuble, comprenait plusieurs niveaux. Il y avait des bureaux, des réservés aux banques, la finance. Il y avait aux agences de voyage. Et puis plus haut, des appartements très chics pour ceux qui viennent là, des touristes, des blancs, etc. C'était vraiment très, très, très innovant. Et situé aussi, immeuble Tebela, en plein centre-ville, en face là. Vous voyez, le ministère de la Communication et de l'Information. Alors, c'était. Et aussi en face de la communauté urbaine, vraiment au centre de la ville. On l'a cassé, c'est pas trop comment. Ensuite, il y a eu Monsieur James Onobiono qui est venu ici pour faire les cigarettes. Lui, c'est du côté du Mbam. Alors là, une sociologie. Vous avez un peu. Je ne vais pas dire les ethnies, mais bon, je ne sais pas comment appeler ça. C'est du Cameroun. Alors, les écans. C'est au centre, Monsieur Onobiono, pardon, c'est l'Umbam, c'est le centre ouest, je ne sais pas comment appeler ça, entre le centre et l'ouest. Et lui aussi, il est venu ici, il a travaillé avec les Allemands, il a créé la Citaba, là j'étais aussi encore là, les années 80. Et la Citaba, c'était une société chargée de fabriquer des cigarettes. Et entre-temps, lui aussi, Monsieur Tebela était sur Yaoundé, Monsieur James Onobiono sur Douala, à deux mastodontes à ce moment-là qui avaient carrément éteint tous les grands ponts affairistes, d'hommes d'affaires bamiléké, très riches, les Moncam, et puis tout ça, et les Fotso, et j'en parle, mais Fotso, c'est des grands, hein, des Kadji, c'était des grands, mais eux, ils faisaient dans d'autres domaines, et que la cigarette. Et Tebela, et aujourd'hui, Monsieur Amougou Belinga, c'est un peu plus du culturel, vous voyez? Donc, c'est un peu des choses en vue qui font que vous fassiez en termes d'image, ils ont une prépondérance, même si financièrement, ça ne suit pas. Ce n'est pas le cas. Donc, on soupçonne, vous voyez, ce truc politique assez compliqué où, pour détruire votre ennemi, vous vous servez de son frère pour le casser. Et ça, c'est très, très, très camerounais. Et c'est très, très black. Et là-dedans, allez savoir, on annonce donc une enquête, une commission d'enquête. Le président dit, j'ai lu un communiqué de la présidence qui dit qu'il y aura une enquête qui va être menée. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu, on suppose, on suppose, on suppose. Et peut-être que, et puis un colonel, peut-être que, qui a dit des choses à France 24, peut-être que ça se serait passé ainsi, ainsi, ainsi. L'autopsie dit que, l'ADN dit que, bon. Bon, franchement, si les élections sont en 2025, on s'en approche, c'est pas plus mal. Et puis ici, les gens ont faim, voilà, les gens ont faim. Et puis les gens sont aussi énervés, ils ont raison, parce qu'il n'y a pas de raison que les uns soient sans pif et puis crachent comme ça sur tout le monde avec leur opulence et puis tout le reste, et puis que les autres soient quand même. Il y a une question de distribution des richesses du pays qui est un problème. Mais de là, à aller s'attaquer quand même à des grosses références pour tout détruire et tout ramener à zéro, vous voyez, il y a quand même un problème. Il y a un problème parce que l'Africain, c'est celui, je vis en ce moment. C'est celui qui, lorsqu'il n'a rien, essaie de détruire ceux qui ont quelque chose pour les ramener à leur niveau. Et ça, c'est pas bien, c'est pas bon non plus. Donc, Citizen Kane, Mordack, je sais pas comment on combine les deux à la fois pour parler d'Amougou Belinga, mais vraiment, c'est un fondateur. C'est un fondateur, ça sera un repère fondateur de la relance du Cameroun, à la fois économique et surtout culturelle. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis à bientôt.